Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour Marjolaine Meignet-Millefer.
Bonjour.
Vous êtes députée en marge de la 10e circonscription de l'Isère depuis 2017, vice-président de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale et de l'aménagement du territoire, vice-présidente du groupe d'études de Ville Moyenne. Nous animons d'ailleurs le club Cœur de Ville pour accompagner cette politique aujourd'hui. Membre du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, co-animatrice du plan de rénovation énergétique des bâtiments et rapporteur de la mission d'information rénovation thermique des bâtiments, rapport rendu le 10 février 2021, c'est-à-dire récemment. Et depuis mars 2021, vous présidez l'alliance HQE-GBC, association qui réunit les professionnels afin d'inscrire la construction et l'aménagement urbain dans un projet de développement durable. Et on voit aujourd'hui en effet ce glissement entre le soutien au neuf et finalement l'accélération aujourd'hui de la rénovation thermique. C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et le plan de relance a accordé 7 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments. Est-ce que vous considérez que c'est suffisant pour lever le frein afin de massifier les travaux de rénovation énergétique ?
En tout cas, suffisant pour lever le frein, en tout cas, c'est une très grosse levée de frein. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un effort vraiment notable qui est fait, puisqu'il est supérieur à ce qui a pu être fait auparavant, et qu'aujourd'hui, les uns et les autres s'accordent à dire que c'est plus les problématiques financières qui constituent les freins principaux, finalement, à la rénovation énergétique. On peut avoir des accompagnements des ménages à des niveaux très, très élevés. Dans le cadre de MaPrimeRénov', on peut couvrir jusqu'à 85% du coût des travaux, ce qui est en fonction, évidemment, des revenus des ménages. Mais des ménages, du coup, qui ont peu de moyens, peuvent se permettre de faire des travaux aujourd'hui qui sont efficaces, qui leur permettent de faire des économies d'énergie.
Et on peut amortir ces coûts de 85% en combien d'années, en fait, sur l'économie qui va être faite ?
À 85%, ça va dépendre des travaux qui sont faits, etc. Mais les retours sur investissement sont assez rapides.
Une cime à 3-4 ans, je crois, ou même plus rapide.
Alors, encore une fois, ça dépend des travaux que vous élaborez. Plus les travaux sont ambitieux, plus ils sont complets, et plus, du coup, vous avez des économies d'énergie importantes. Donc, voilà.
Et là, vous avez le sentiment que la trajectoire, les choses sont en route, l'ensemble des administrations publiques permettent de faire cette diffusion. Il y a une bonne compréhension et acceptation.
Alors, en tout cas, le sujet n'a cessé d'augmenter, finalement, dans l'esprit des Français depuis 2017. Depuis, effectivement, 2017, je suis, comme vous l'avez dit, co-animatrice du plan de rénovation énergétique des bâtiments français. Le but, c'était, avec Alain Maugard, qui est président de Calibat, de faire le suivi, en fait, de ce plan de rénovation et de ses objectifs français sur l'ensemble du mandat. Et en 2017, quand on parlait de rénovation énergétique, on se sentait un petit peu seul. Mais progressivement, au fur et à mesure des sujets, le premier, c'était la crise des Gilets jaunes qui a permis de dire la rénovation énergétique, ça réunit ceux qui luttent contre la fin du monde et ceux qui luttent pour la fin du mois. C'était un moment de réconciliation où on s'est dit on peut faire de l'écologie et du social en même temps. Donc ça a été un premier boost finalement pour le sujet de la rénovation énergétique. Et avec la crise Covid, avec des gens qui sont coincés chez eux 100% du temps, la prise en compte de l'enjeu sanitaire est devenue très importante. Être bien chez soi, être en bonne santé chez soi dans un logement sain, c'est important. Et donc les gens se sont rendus compte aussi que c'était très important de se sentir bien et confortable chez soi. Donc ça a boosté encore une fois le sujet de la rénovation. Et bien sûr, le volet économique, puisque quand on travaille sur la rénovation énergétique, on crée des emplois locaux, non délocalisables. Et ça aussi, c'est très, très important dans un moment où on est dans la relance économique. Donc on a tout bon à tous les niveaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde parle de rénovation énergétique.
Alors, à propos de ces emplois locaux et la capacité à faire, la France s'est fixé l'objectif d'un parc pour 2050 immobilier BBC. Aujourd'hui, les professionnels du secteur de la rénovation énergétique ont-ils la capacité de répondre à ces engagements de rénovation énergétique ? Y a-t-il la formation qui va avec ?
Alors, en volume, on dit qu'on fait environ 400 000 rénovations par an. On en augmente les volumes. On dit que MaPrimeRénov' arriverait à atteindre les 800 000 gestes de rénovation d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une très belle dynamique qui est engagée. Mais effectivement, pour ce qui est de la rénovation BBC, on en fait encore trop peu. On est à quelque chose comme 40-50 000 rénovations BBC par an, alors qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on en vise beaucoup plus dans le cadre de nos trajectoires climatiques. On viserait plutôt de 350 000 et l'objectif progressivement, ce serait de monter à 700 000 et plus aujourd'hui pour atteindre un parc effectivement 100% BBC d'ici à 2050. Donc effectivement, pour travailler sur ce BBC, les professionnels du secteur ne sont pas encore habitués, pas suffisamment formés formés à la rénovation BBC. On n'a pas cette habitude structurellement en France parce que structurellement, on a toujours accompagné plutôt les gestes isolés et successifs. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de ne pas brutaliser le secteur en passant du jour au lendemain de la rénovation par étape à la rénovation globale. Mais progressivement, le but, ça va être d'associer des combinaisons indissociables. Progressivement, ça va être d'aller vers des méthodologies plus de coopération de chantier, où on va avoir plusieurs gestes traités en même temps pour aller progressivement vers une augmentation des rénovations qui seront de plus en plus profondes, de plus en plus impactantes et efficaces.
Et il reste aussi l'acceptabilité, la compréhension. Par moment, d'ailleurs, on a eu des débats avec des élus sur... Il faudrait peut-être des guichets uniques pour faciliter, puisqu'il y a beaucoup...
Alors, c'est chose faite. Grâce à la loi Climat Résilience, on va avoir la mise en œuvre de ces guichets uniques qui seront installés dans les maisons France Service et où l'objectif, ce sera que dans chaque canton, on puisse avoir un lieu où on peut interroger sur la rénovation énergétique et où la personne qui sera derrière le fameux guichet unique... Alors, évidemment, elle ne vous fera pas les devis, elle ne vous fera pas l'explication totale. Par contre, elle pourra vous dire dans votre territoire qui est la bonne personne qui va pouvoir vous accompagner dans vos travaux.
Ça sera un tiers de confiance déjà parce qu'il y a
ça
beaucoup
rassurera...
de sollicitations téléphoniques et les gens de temps en temps, alors que c'est des appels tout à fait légaux, mais même je me souviens à l'époque, la prime à 1 euro, les gens étaient persuadés que c'est de l'arnaque.
Ils appelaient
en mairie en disant mais il y a quelqu'un qui veut nous voler parce qu'on nous propose quelque chose qui n'est pas possible.
Mais c'est ça, c'était du style vous avez reçu une clé de voiture et on vous dit que vous avez gagné une voiture, vous êtes le premier à dire bon, ça c'est pas possible, c'est pas pour moi.
Alors vous faisiez justement le lien entre ces proximités d'interface sur le territoire avec le projet de loi Climat et Résilience qui est actuellement en examen au Sénat et sa partie logement depuis le 24 juin. Pouvez-vous nous en dire plus sur les dispositifs d'incitation ou d'obligation pour la rénovation énergétique des bâtiments ?
Alors effectivement, depuis toute cette période, 2017 et puis successivement, la loi Elan, etc., on s'est posé de plus en plus la question de l'obligation parce qu'on voyait bien qu'on n'arrivait pas à avancer comme on le souhaitait en termes de résultats et de volume. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui doit relever de l'incitation et qu'est-ce qui doit relever de l'obligation ? L'incitation, le but du jeu, parce que comme on l'a dit, la rénovation énergétique, ça a tout bon. Donc il n'y a aucune raison que les gens aujourd'hui n'y aillent pas. Donc l'objectif, c'est de lever les freins financiers. La Convention citoyenne pour le climat a mis le sujet de la rénovation énergétique sur la table en disant que c'était un des premiers sur lequel on devait travailler et en disant qu'il fallait mettre des obligations à tous les citoyens de rénover leur logement. En disant derrière que c'était bon pour eux et pour le climat. Le président de la République leur a répondu en disant « Oui, mais si les gens n'ont pas les capacités derrière de trouver les financements ou de le faire, je ne peux pas leur mettre d'obligations qu'ils ne pourront pas tenir. » Donc le compromis a été pris de rester sur des logiques d'incitation pour le grand public dans sa grande majorité. En revanche, pour ce qui est des bailleurs, l'objectif, c'est qu'en revanche, on ne mette plus en location des passoires thermiques, donc les F et G, et qu'on demande aux bailleurs de mettre leur logement aux normes pour qu'ils puissent du coup être rénovés avant d'être loués.
Quelles sont les dates limites pour ne plus mettre les F et G
Alors G, c'est dès maintenant.
Dès maintenant.
Enfin pour la partie la plus basse, et ensuite F en 2025.
D'accord, donc sinon rénovation.
Et on considère que c'est un critère de non-décence. D'avoir une consommation énergétique trop importante. Parce que c'est indécent à la fois pour les ménages qui, du coup, ne peuvent pas se permettre ces charges énergétiques-là et qui n'arrivent plus à se chauffer. Et puis c'est indécent aussi sur un volet climatique parce que ceux qui parviennent à se chauffer et qui chauffent la planète au lieu de se chauffer qu'eux-mêmes, c'est quand même effectivement dommage.
Oui,
et en revanche, l'objectif, c'est effectivement de ne pas non plus dans une situation de punition pour les bailleurs. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner aussi, puisqu'il y a des bailleurs qui ont les moyens et qui peuvent rénover des biens. Enfin, l'objectif, c'est quand même pas de soutenir les marchands de sommeil. Mais en revanche, on a des bailleurs qui sont des bailleurs eux-mêmes qui sont assez pauvres et qui, du coup, peuvent être en grande difficulté pour accompagner. Et là, donc, on a mis en place des dispositifs pour aider les gens à pouvoir aussi rénover quand ils mettent leurs biens en location. Donc des accompagnements, y compris pour les bailleurs.
Et c'est vrai pour les bailleurs individuels que pour les bailleurs collectifs et les bailleurs sociaux aussi, j'imagine.
Les bailleurs sociaux qui sont effectivement accompagnés, mais qui sont d'ores et déjà en fait parmi plutôt les publics exemplaires. Le parc social est plutôt très bien entretenu en grande majorité.
Bon, la grande difficulté en Île-de-France, c'est vrai que c'est les passoires, des pavillons qui n'ont pas été refaits depuis 1970 et qui consomment énormément d'argent pour souvent les personnes âgées qui y vivent aujourd'hui. qui n'ont plus les moyens de se chauffer. Donc, mais je note sur les marchands de sommeil, ce que vous dites est très important par ailleurs. Et plus on communiquera dessus, plus les gens auront envie simplement demain, ce sera du bon sens de prendre un bail dans un logement qui va coûter pas plus de temps en matière d'énergie.
C'est de protéger les locataires qui ont finalement assez peu de capacité d'action pour réduire leur facture énergétique, mais de faire en sorte aussi, encore une fois, d'accompagner les propriétaires pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes bloqués ou qu'ils ne retirent pas leurs biens de la mise en location. Parce que typiquement, ça, c'était une des réactions locales qui était très forte, c'était de dire si vous obligez nos propriétaires à rénover, ils vont nous enlever les logements qu'on peut se permettre et qui sont pas chers. Donc on a fait très attention, effectivement, d'être à la fois dans la contrainte pour ceux qui peuvent et à la fois dans l'accompagnement pour ceux qui peuvent moins.
Au sein du rapport d'information sur la rénovation thermique des bâtiments que vous avez rendu avec vos collègues en février 2021, vous avez mentionné la volonté de créer un observatoire de la performance énergétique des bâtiments et de doter l'Observatoire national de la rénovation énergétique de moyens humains et financiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et à quelle date vous le voyez se construire ?
Alors effectivement, dans le cadre de cette mission d'information que nous avons menée avec Vincent Decker, l'objectif c'était de faire un bilan de tout ce qui existait. Et on s'est rendu compte que c'était quand même très difficile de trouver des chiffres objectifs sur tous ces sujets. C'est pour ça qu'effectivement on a été parmi ceux qui ont poussé la mise en œuvre d'un observatoire, mais ce que le gouvernement en fait a très bien entendu aussi puisqu'il l'a mis en œuvre. Et la problématique, c'est que cet observatoire, donc, on en suit la mise en installation. Et en fait, c'est très compliqué de capter ces données-là et de les agréger pour qu'elles deviennent en fait des outils de pilotage public. L'objectif, c'est effectivement d'avoir après des outils qui vont permettre de vérifier que là où on met l'argent, bah, on a les effets escomptés et de pouvoir suivre ça dans la durée. C'est pas normal que les chiffres qu'on peut récupérer, on les a 4 ans plus tard. Par exemple, sur la précarité énergétique, c'est une fois tous les 4 ans qu'on va avoir des chiffres agrégés. Donc,
on aura du mal à accélérer ou voir où on en est, ou voir même faire de la prédictibilité des nécessités à venir. Et vous le verriez rattaché chez qui, cet observatoire ? Ça va être un observatoire public-privé,
alors, en fait,
ça peut être une association ?
Encore une fois, il existe déjà et au final, il est rattaché à la fois à l'ADEME, au CGEDD. Et donc, l'objectif, c'est d'articuler ces différents observatoires, parce qu'il y a aussi des observatoires au niveau régional qui aussi se mettent à chercher cette donnée qui n'existait pas suffisamment. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'agréger toutes ces données, de faire en sorte qu'on puisse avoir accès à cette information et qu'ensuite, on puisse l'utiliser pour piloter. Et le sujet, c'est la gouvernance. Grâce à ces outils d'observation, on va pouvoir partager la gouvernance, d'autant plus avec les territoires, puisque le sujet de la rénovation énergétique, c'est un sujet partagé entre le national et les territoires.
Merci en tout cas, Marjolaine Meunier-Millefer. Il y a 15 jours, je recevais le maire de Châteauroux et qui s'inscrit totalement dans cette politique. On a nous-mêmes été surpris puisqu'habituellement, il construisait dans sa ville 300 logements neufs par an. Il est passé à 100 logements neufs par an et 200 rénovés. Ce qui fait que pour les populations, il y en a autant à la sortie. Mais on voit qu'il y a aujourd'hui un accompagnement grâce au soutien qu'il y a sur la rénovation énergétique, une réorientation aussi vers les villes moyennes parce qu'on va reconstruire les cœurs de ville aujourd'hui grâce à la rénovation énergétique et sans aucun doute après le Covid, avec le télétravail, peut-être trouver de nouvelles populations qui quitteront les grandes agglomérations pour y aller. Merci en tout cas aujourd'hui de votre présence.
Marjolaine
Meunier-Millefer, députée de la 10e circonscription de l'Isère. Très bonne continuation à vous et à très bientôt.
Et à vous aussi, merci.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.